je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
C'est Marchand Vider mit Minera Chronique Mort Mira Platz. De semaine en semaine, nous sommes là pour le plaisir de vos oreilles. Un immense merci, chers auditeurs, vous êtes juste formidables. Semaine après semaine, nos audiences s'envolent et cela, c'est grâce à vous, notre Radio J le mérite et vous aussi. Et ce bon matin, j'ai ouvert notre antenne, nos ondes, à une personnalité majeure du cinéma. Je le connais depuis plus de 50 ans, passionné, cinéaste, réalisateur. Il a réalisé de nombreux longs métrages. Il est l'un des grands exploitants de salles de notre région, de Strasbourg et de toute l'Alsace. Un jour, il a même traversé le grand écran, comme Woody Allen l'a fait, vous savez, pendant le Rose Poupre du Caire. Un moment magique, extraordinaire. Fais-moi une place, c'est maintenant. Le rouge est allumé dans le studio. De salle obscure au plateau de tournage, une vie entière consacrée au cinéma. Et ce matin, il est mon invité. Petit jingle, écoutez. C'est mignon, non? Sois le bienvenu, cher René Letzgus. Quel plaisir de partager ce moment avec toi, René.
Bonjour, Dédé. Bonjour à tous les auditeurs. Je suis ravi d'être là.
Nous aussi, on est contents que tu sois là.
Oui, je suis surtout très fier d'être invité à cette radio que j'aime beaucoup.
Tu l'écoutes de temps en temps?
C'est-à-dire que je l'écoute, mais j'ai surtout été souvent invité quand je m'occupais un peu plus de films. C'est-à-dire que quand je faisais ma chronique à Radio Nuit et Bleu, j'étais invité de temps en temps pour parler des films qui sortaient à Strasbourg. Quel que soit le cinéma d'ailleurs.
Pourquoi tu ne le ferais pas ici chez nous, à Radio Judaïka, faire des chroniques? Parce que toi, tu as tellement d'invités au cinéma, fais-les venir ici au studio et tu parles de cinéma, de l'actualité, tout ça. C'est génial si tu pouvais faire ça.
C'est une jolie perche que tu me tends, c'est le cas de le dire au cinéma. Tu me tends une perche et je vais peut-être la saisir.
Perchman, ouais. Alors, comment tu vas, René? Comment tu vas dans ton monde? Et je te souhaite en tout cas une bonne et heureuse année, René.
C'est réciproque. Moi aussi, à tous les auditeurs. Joie, santé, bonheur et surtout, on aimerait bien qu'il y ait un peu plus de paix sur cette terre.
Ouais, ce serait important.
Et donc,
pour moi, c'est un des objectifs que je me fixe toujours autour de moi
et aussi dans les films que je fais, dans les films que je diffuse. J'agis toujours pour ça et donc.
Pour la paix dans le monde.
Je suis inspiré dans
Il y a du boulot. Alors, René, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi pour toi le cinéma? Une lanterne qui s'allume et soudain, on vit d'autres vies que la sienne?
Oui, alors pour moi, c'est surtout, disons que comme j'ai passé beaucoup de temps, comme tu l'as dit, beaucoup de temps à projeter des films, déjà comme projectionniste, donc regarder les films, pour moi, c'est faire vivre une grande émotion à des personnes qui assistent à la séance et tout ça sur un grand écran, dans une salle de cinéma. Pour moi, c'est ça, la première chose. Après, si je reviens un petit peu maintenant en tant que réalisateur, c'est faire vivre des émotions au travers de ce que je raconte, des aventures qui se sont passées, que j'ai vécues ou que je n'ai pas vécues, ou tout simplement une rencontre que je fais et soudain j'ai l'envie de faire un film sur cette personne, si cette personne accepte bien évidemment.
On en parlera plus loin parce que c'est un peu ton activité, tout à l'heure on en parlera. Mais je me souviens aussi dans une autre vie, dans les années 70, les années chemises à fleurs et pattes d'éléphant cette année-là, tu étais un des exploitants d'une salle de cinéma de mon enfance en fait. C'était la salle blanche où j'ai vu Bambi, où j'ai vu La Guerre des Boutons et tu étais le responsable de ce cinéma qui s'appelait autrement en fait.
Oui, oui, c'est ça, c'était l'Alpha de Schiltigheim, c'était la salle blanche à l'époque.
Tout a commencé là pour toi ?
En fait, j'ai commencé parce que je suis revenu en Alsace parce que j'avais fait pas mal voyager dans le monde entier. J'ai gagné un peu d'argent et puis j'ai pu racheter...
Avec ton sac à dos et puis...
Oui, presque ça.
Tu partais à l'aventure.
J'étais ouvrier à un moment donné, mais en tant qu'ouvrier, tu peux aussi ne pas rester sur place pour exercer ton métier. Tu peux l'exercer ailleurs. Et moi, j'ai très vite opté pour des entreprises qui partaient à l'étranger, en Afrique, en Asie, etc.
Et tu faisais quoi là? Tu étais quoi?
J'étais ouvrier électricien. J'avais passé un CAP d'électromécanicien à Molsheim, chez Bugatti, formidable entreprise.
Dans cette belle maison où tu as fait un film d'ailleurs.
J'ai fait un film sur les voitures, pour raconter l'aventure de Bugatti. Et c'est ce qui m'a permis de gagner un peu d'argent. Et avec cet argent, comme cette salle était à vendre, j'ai connu le cinéma par ailleurs. Et j'ai donc racheté cette salle, donc avec trois sous.
Et il y avait du monde dans cette salle à l'époque, dans les années 70? Alors,
c'est un peu curieux. En deux mots, je faisais trois types de cinéma. Je faisais un cinéma culturel le soir. C'était d'ailleurs une des premières. C'est devenu au bout de
l'arrêt
deux
d'essai,
ans.
Arrêt d'essai, ouais, je m'en souviens.
Voilà, une des premières salles d'arrêt d'essai de France, avec très peu de gens. C'est nous qui avons créé, avec Frédéric Mitterrand et quelques autres personnes qui sont toujours là. Malheureusement, Frédéric nous a quittés. Mais nous avons créé le mouvement de recherche, qui est un mouvement le plus important dans l'art et essai. C'était donc une salle de référence. Donc ça, je le faisais donc en semaine, le soir, avec peu de gens. Mais il y a toujours des gens qui sont fidèles, qui continuent à aller au
Star. Je me souviens, j'en faisais partie, ouais.
Voilà, je citerai Maître Alexandre, ou déjà beaucoup d'avocats, beaucoup de médecins que je connais toujours qui sont venus à l'époque.
Et je me souviens d'une anecdote qui était très intéressante. À la sortie du film, tu nous attendais avec ton épouse à côté de la salle, à côté du guichet. Et tu nous demandais, alors c'était comment? Vous avez envie d'avoir un autre film un jour? Et voilà. Je te disais, pourquoi tu ne mettrais pas Ben-Hur?
Exactement.
Et tu as mis Dix Commandements.
Oui, j'ai pas mis Ben-Hur, mais j'ai mis l'idée des Dix Commandements.
Et je m'en souviens, c'est parce qu'on te l'avait proposé. Et ça, c'était génial.
Ah oui, il y avait une relation. Pourquoi? Parce que ma femme s'occupait. Ma femme était fille de boulanger. Et donc, elle était à la caisse chez nous. Donc, ça se mariait bien, disons-le.
Ouais, c'est joli.
Et moi, je faisais l'opérateur le soir, dans la journée.
Projectionniste,
ouais. oui, bien sûr. Et c'est ce qui a fait qu'on
et
a...
Et c'est là que ton métier d'électricien t'a servi à quelque chose.
Complètement, puisque ouais. je bricolais.
Les pannes, tout ça, ouais. Alors, avant de continuer un peu de parler de ta vie de cinéaste, j'aimerais bien mieux te connaître. Et là, je reviens avec mon petit jingle, séquence, émotion. Voilà, c'est mignon, non? Là, j'aimerais savoir un petit peu quel enfant tu étais, d'où tu viens, où t'as grandi. Raconte-moi un petit peu. T'étais comment un enfant? Comment? Turbulent, sage, espiègle? Raconte-moi un peu tout ça, ton enfance.
J'étais un enfant normal, je pense. Non, mais c'était quand même peut-être un enfant normal dans une vie, je ne vais pas dire anormale, mais c'était quand même très compliqué dans la famille. Mon père était ouvrier dans une petite usine. Il a été travaillé chez Bugatti comme ouvrier. Puis après, il a été ailleurs, mais peu importe. Et ma mère, elle faisait les ménages. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on n'était pas très riches, quoi. Alors donc, il fallait gagner de l'argent, Mais ce qui se passait toujours chez nous, il y avait des choses qui étaient importantes. C'était le respect de l'autre. Et ce qui était, dont je parlais toujours, et je continue à le dire, je suis croyant et pratiquant. Et parce que mes parents priaient avant tous les repas.
On priait
avant d'aller se coucher. On priait le lendemain matin. Et donc, et vraiment, une famille très pieuse.
C'est une très bonne éducation, ça,
bien
quand
sûr.
Même, le respect, ce que tu
le
dis.
Le respect de l'autre.
De l'autre.
Oui, voilà. Ouais. Et c'est ça qui m'a marqué.
De très belles valeurs.
C'est ces valeurs-là que tu es. Et je disais avec mon frère qui est actuellement en Italie, vit en Italie, son fils est médecin. Et on se dit toujours, tu vois, il y a quand même quelque chose d'important, c'est qu'on essaye de continuer avec ces valeurs, de les transmettre aussi à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Par exemple, aujourd'hui, ici, j'ai la chance d'être avec vous, c'est de parler de ça librement. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est ça qui a toujours conduit ma vie et m'a tracé mon chemin.
C'est beau ce que tu dis, ça me donne presque la chair de poule, tellement c'est... Est-ce que tu as transmis ça aussi à tes enfants? Est-ce que tu as fait cette transmission, ce côté pieux, ce côté respect? Est-ce que tes enfants...
Oui.
Ouais.
Oui, je dirais, bien sûr. Ils étaient dans une école protestante quand ils étaient petits. Et ils ont été ici à l'école à Akiba, enfin là, c'est Akiba.
Akiba, ouais.
Ouais, c'est ça. Mon fils a fait ça. Il a fait son bac ici. Il a réussi ici.
C'est génial.
Et c'est grâce aussi à cette transmission de valeurs,
aussi,
au travers des valeurs qui sont transmises dans cette école, qui font que mon fils et mes enfants réussissent aujourd'hui. Ils réussissent façon de parler. Hein. Voilà. Donc,
c'est bien. Ouais, c'est très. Ouais. Alors, bon, tu me parles de l'enfance. Alors, où est-ce que tu as grandi? C'est où? Quelle villa? Dans un village agricole? Dans un village à la campagne? Où tu étais en ville? Raconte-moi où tu as grandi.
En fait, je suis né dans un petit village. Je suis né à Vaslon.
À Vaslon.
J'ai vécu dans un petit village à Wangen et toute ma famille, elle est à Westhoffen aujourd'hui. On n'a plus personne dans le village à Wangen. Ma famille est en grande partie à Westhoffen.
Westhoffen, où il y a un village connu parce qu'il y a l'église catholique protestante et surtout la synagogue. Qui est devenue en fait une sorte de musée aujourd'hui,
Oui, hein. Oui, il y a la synagogue, il y a la famille de Bré. Ma sœur, par exemple, connaît très bien la famille de Bré.
Qui était venue pendant la guerre.
Amis,
qui était,
oui,
ouais, c'est
oui,
ça.
Donc,
je l'avais rencontré,
sûr.
Monsieur de Bré, le ministre,
oui,
qui venait souvent à Westhoffen.
Qui est venu récemment,
parce
30 quoi, ou 30 ans, il a inauguré le stade de foot et tout ça. Enfin, c'est dans ces villages-là que j'ai vécu, avec tous ces gens qui ont été vécus là-bas.
Et tes jeux d'enfance, c'était quoi? Tu jouais à quoi quand tu étais gamin? Tu jouais à Thierry Lafronde, à Yvan Noé, Rintintin?
Oui, alors c'est un peu compliqué parce que, oui, j'aimais le foot surtout.
Et donc j'aimais le foot. Et toujours aujourd'hui?
Toujours aujourd'hui. Et je jouais au foot, je jouais dans le petit patelin à côté, à Marlenheim, qui avait une belle petite école de foot. Mais il fallait d'abord que je travaille dans les champs. Alors donc, pour essayer, parce qu'il y avait beaucoup de paysans dans mon village. Alors je leur faisais des petits travaux dans les vignes, puisqu'il y a beaucoup de vignes dans le secteur de Westhoffen, Vasselon et Wangen. Et donc, comme j'étais un travailleur à 12 ans, 13 ans, je sarclais dans les vignes pour arracher les mauvaises herbes.
D'accord.
Et puis, je regardais en bas, parce que quand j'étais sur la petite montagne de Wangen qui culmine, je voyais le stade en bas.
Ah ouais.
Et je voyais les gamins qui arrivaient pour jouer. Et donc, je me dépêchais pour vite finir mon travail. Et quand j'avais fini mon travail, je prenais mon vieux vélo et je descendais jouer au foot avec eux. C'était ça, la vie à la campagne.
Voilà. Et donc, tu parles de la campagne, mais tu parlais aussi, tu m'avais dit un jour que tu savais traire des vaches.
Ouais.
Tu gardais un troupeau.
Ouais,
un peu comme un cow-boy, quoi.
Bah, oui, je faisais un peu tout ça, parce que à cet âge-là, tu ne te posais pas de questions. Alors, j'avais effectivement une tante qui avait une petite ferme, donc petite ferme façon de parler, avec 4 vaches ou 5 vaches, et puis quelques poules, quelques cochons. Donc, elle habitait un petit peu plus loin, dans un petit village qui s'appelait après Vasselon, à Romanswiller, à Lanvillers.
Ouais, ouais, je vois
et
bien.
Et pendant l'été, on m'a invité là pendant 2 mois, mais on ne m'a invité pas pour que je passe des vacances. On m'a invité justement pour que je garde les vaches dans les prairies. Et donc, c'est ce que je faisais. Je rêvais sous un arbre. J'étais souvent couché sous un arbre. Je regardais les vaches. Et puis je rêvais.
Quelle belle enfance.
C'est à ce moment-là que j'avais envie de faire du cinéma. Ouais.
Et parce que tu as, le décor, c'était la vie, quoi.
Ouais.
Ton décor, c'était
ça. C'est ça, c'est mes histoires que je raconte, c'est la vie,
c'est des gens que
je rencontre.
Que tu rencontres.
Et puis j'essaie aussi toujours de prendre un peu des personnalités qui sont un peu à mon image, qui ont des choses à dire.
Et alors tu m'avais aussi dit que tu dormais de temps en temps à côté des vaches, dans l'étable, c'est génial.
Ah ben c'était ça, c'était à l'époque. C'était vraiment des petits villages où il y avait des paysans, je veux dire, ils avaient 3 vaches, 4 vaches, ils avaient des terres cultivables et tout ça, et ils dormaient, ils avaient la cuisine qui était ouverte sur l'étable, ils avaient la chambre à coucher qui était, parce qu'il n'y avait pas de chauffage, donc en hiver, il n'y avait quasiment pas de chauffage, donc c'était la chaleur des bêtes qui réchauffait la maison, donc il y avait
c'est comme la crèche, quoi.
Voilà, et puis il y avait bien sûr la bouse des vaches et tout ça, ça donnait un peu des odeurs.
Ah oui, c'est bien,
puis,
ça.
Voilà.
C'est la vie, quoi.
Ouais, c'était vraiment la vie.
Donc, d'après ce que tu me dis, t'avais une enfance heureuse, on peut le dire, un peu, t'avais une enfance heureuse.
Oh, mais des fois, c'était pas très marrant, quand je raconte ça, c'est vrai que c'était magnifique.
C'est une belle image, quoi, c'est vrai que c'est. Et raconte-moi un petit peu, l'école, c'était comment? T'étais un peu un rêveur, un travailleur ou un cancre? Comment c'était ton école?
J'étais pas grand. J'étais pas très studieux. J'étais un peu intellectuel quand même déjà à l'époque parce qu'on avait une petite bibliothèque à l'école.
J'étais déjà
un lecteur. Quoi. Alors j'ai toujours lu. Je me rappelle même quand j'avais pas encore 14 ans, je lisais déjà un peu Le Monde. Pourquoi? Parce que ma mère, elle était dame de compagnie un peu mieux qu'une femme de ménage chez un couple qui était universitaire. Et quand j'allais chez lui, il avait toujours Le Monde qui traînait. Et je pouvais lui disais toujours, il s'appelait Monsieur Charlier. Je disais Monsieur Charlier, je peux vous prendre Le Monde, et je lisais Le Monde, je ne savais pas très bien ce que je lisais, mais je voulais déjà passer un petit peu de l'autre côté de la barrière.
Ah, c'est bien, donc ça t'a appris beaucoup de choses.
Ouais,
écoute, on va se reposer un tout petit peu nos oreilles, et on va écouter une musique que tu affectionnes, un monsieur qui a fait beaucoup de musique de film. Écoute voir. C'est beau, non?
Bah c'est pas seulement beau,
c'est extraordinaire.
C'est touchant, c'est vraiment ça le cinéma. Et j'ai une petite anecdote, c'est que
sur Ennio Morricone, tu as côtoyé.
J'ai une petite anecdote. Il y avait un festival de cinéma à Auxerre qui s'appelait Musique et cinéma. Mm-hmm. Et donc ils invitaient des films, donc qui parlaient de ça, musique et cinéma. Et moi j'avais fait un film sur Nina Simone. Et donc ils ont invité ce film. Et à la grande surprise, donc j'ai eu le prix du meilleur film de musique donc à ce festival. Et c'est Ennio Morricone qui était là avec son grand orchestre dans la salle et qui jouait. Et il faisait partie du jury. Et donc, il y avait Francis Lai aussi. Mais c'est là que j'ai connu. Il avait son orchestre et il jouait ce morceau-là. Il avait joué ce morceau ce soir. C'est pour ça que je ne savais pas que tu allais passer ça.
Bah, c'est
mais
une
ça
surprise.
Me touche encore plus.
C'est une surprise.
Voilà.
Je vois que tu es touché.
Ouais,
ça se voit.
Oui, ah oui,
ça
je suis très touché. Oui,
Et c'est vrai que tu as eu d'innombrables prix, tout ça. Donc, ça, c'est un des prix qu'on t'a remis.
C'est
extraordinaire.
Et dans cette salle, il y avait aussi une autre personne. Alors, je parlerai du deuxième film. Il y avait Francis Lai, le musicien de Lelouch.
Bien sûr que tout le monde connaît.
Et quand on avait fini, il y avait un repas. Et le repas, j'étais avec Francis et Francis Lai me dit « Ah, c'est pas mal ce que t'as fait là, ton film et tout. Tu fais quelque chose ?» J'ai dit « Ouais, je prépare un film sur Zidane.
Ah » ouais.
Alors il me regarde comme ça, il dit « Mais tu as déjà un musicien ?» Alors j'ai dit « Ben, je prends toujours en musique. Ouais, enfin, oui et non, mais bon, j'ai jamais beaucoup d'argent, alors je peux pas faire grand-chose. » Il me dit « Quand t'auras filmé un peu, tu m'envoies les rushs et je te rappellerai.
Ah, »
J'ai renvoyé le rush, il me rappelle, il dit « Je te fais la musique du film. »
Ah, grandiose.
Et pour 3 sous, il m'a fait la musique
c'est
du film. On a enregistré avec ses musiciens.
Mais on en parlera un peu plus tard de ce film de cinéma. Ouais. Moi, ce que j'aimerais juste savoir, comment t'es devenu cinéaste? C'est quoi le déclic? Comment tu as fait pour devenir aimer le cinéma? Bien sûr, t'as lu Le Monde, t'as peut-être lu des articles sur le cinéma, mais quelle est la rencontre? C'est à Westhoffen que tout a démarré?
Oui, il y a deux choses. Oui, c'est comment je suis rentré dans le cinéma. C'est par amour, voilà. J'allais toujours à Westhoffen, puisque c'était à 2 kilomètres exactement de là où j'habitais.
Et il s'appelait comment? Le Trianon, je crois?
Le Trianon. Ah, bravo. Oui, c'est ça. Je me rappelle juste du nom de l'ouvreuse.
Et pourquoi t'es devenu amoureux de l'ouvreuse?
Et en fait, je suis devenu amoureux de l'ouvreuse, donc j'allais toutes les semaines. J'allais
elle
la voir.
Elle était comment cette ouvreuse?
Elle était magnifique.
Elle blonde aux yeux bleus?
Non, c'était une brunette, avec des yeux profonds.
Ouais.
Le visage un peu sévère, je dis, elle m'a un peu pris en main après, puisque je tiens un peu, pas l'oftibus, mais enfin, comme ça, un peu drôle par moment. Et donc, c'était bien quand tu as fait une affaire que tu es quelqu'un qui te la tienne un peu. Et donc, c'est vrai, je suis devenu amoureux de la truc. Et
de, la caissière, donc, de l'ouvreuse.
Mais enfin, après, le vrai déclic, ça a été ma rencontre avec Frédéric Mitterrand, dont je parlais. Parce qu'il était venu avec un film. Je me rappelle plus maintenant, c'était tiré d'un de ses ouvrages, ça va me revenir tout à l'heure. Et il a fait un film, il est venu, il a passé 3 jours avec moi ici, il voulait préparer un film en Alsace, on a parlé de cinéma et tout ça. Mais il a dit, mais pourquoi tu te lances pas? T'as l'air de vraiment ça te plaire et tout ça. J'ai dit, oh, c'est pas si simple. Il dit, mais si, viens une fois me voir et tout. Et c'est Frédéric qui m'a lancé.
Ouais, c'était quelqu'un d'intéressant.
Lettre d'amour en Somalie, s'appelait ça.
Ah oui, ok, films. D'accord.
Voilà,
c'est vrai que tout ça, c'est que des rencontres. C'est les rencontres qui te forgent, en fait. Hein,
ouais,
c'est
toujours.
Ça.
Hein. Ouais, ouais.
Et là, pour une autre rencontre, on va voyager un peu tous les deux. On va mettre une petite musiquette africaine. Mais nous voir ça, mon cher Thomas, qui est aussi la musique d'un film que tu vas voir, que tu vas reconnaître, j'en suis sûr. Espagnol, l'Espagne.
Abdou Huyambar.
Tu reconnais cette musique africaine parce qu'on a voyagé tous les deux en Afrique. On a fait un beau film ensemble. J'étais ton cadreur, c'était les vélos du Faso, tu te souviens à l'époque
Une magnifique aventure.
On était en Afrique tous les deux, et puis avec un docteur, et puis avec d'autres gens.
Magnifique aventure humaine, avec partagée. C'est-à-dire un partage, justement, comme tu dis, avec un aveugle qui voulait absolument aider les jeunes Africains pour qu'ils puissent retrouver, se faire soigner. Qui était, donc c'était une histoire de notre film, mais aussi de rencontrer un médecin. Là-bas, c'était de faire un dispensaire. C'était rencontrer des gens qui ramassaient des vélos ici en Alsace, les charger sur des camions, les
amener là-bas pour les dispenser. Qu'on réparait avec François Oursa de Molsheim, qui était notre cow-boy, c'est celui-là qui nous a emmenés en Afrique.
Notre maman.
Notre maman, on peut le dire.
C'était notre maman.
Avec qui on a fait plein de choses. On a fait réparer des vélos, on les chargeait dans les greniers en Alsace. On les réparait, conteneurs, et ils arrivaient là-bas à Tombouctou. Et de là-bas, on les emmenait
à Ouagadougou. Et on les distribuait sur des camions. Alors, il y avait cette grande épreuve cycliste qui passait souvent d'ailleurs sur les chaînes sportives en France, qui était le Tour du Burkina Faso.
Qui existe toujours.
Et c'était d'ailleurs Daniel Ball, qui est actuellement le patron du groupe CIC, Crédit Mutuel. Daniel était avec nous parce qu'il s'occupait, lui, à l'époque, de l'Union Cycliste Internationale.
Absolument.
Et on faisait des rencontres formidables. Et on a rencontré le père Baudouin, qui nous a fait faire des choses. Et il faut aussi dire là-bas que à l'époque, je parle pas aujourd'hui, c'est très compliqué.
Aujourd'hui, tu peux plus y aller, c'est
tu
fini.
Tu peux plus y aller parce que bon,
les petits blancs se font kidnapper, tu peux plus y aller.
Et c'est pas seulement kidnapper, surtout, il y a des massacres, de gens à la sortie de l'église et tout ça. C'est
tellement beau, le Burkina Faso.
Mais à l'époque, on allait justement dans les églises, peu importe, puisqu'il y avait plusieurs religions là-bas, c'était pas qu'une religion. Et il y avait 4-5 000 personnes, et les gens chantaient, ils dansaient, c'était magnifique. Il y avait une paix dans ces pays-là.
On a filmé ça tous les deux, rappelle-toi.
Et cette paix, elle est morte, elle est foutue aujourd'hui, c'est ça qui est terrifiant.
Alors, c'est vrai que là, on parle de ta filmographie, on parle des vélos du Faso, mais t'as fait d'autres choses. T'as fait un film sur Zidane, t'as fait Rêve de foot, t'as fait Rêve de glace, t'as fait Des médecins de la brousse. Tu as fait tellement de choses, tu as produit tellement de films et tellement de documentaires.
Oui, c'est ça. Alors, l'un appelle l'autre. Zidane, c'était une belle aventure parce que personne n'avait pu filmer Zidane à l'époque. Et Biladian, qui a pris le film, qui a financé le film, a dit, mais comment t'as fait pour faire parler Zidane?
C'était un des premiers à faire ça.
Je peux pas bien expliquer, mais c'est vrai que Zidane, ça a été une aventure formidable.
Mais t'avais aussi ce contact de footeux, t'avais toute ta vie, t'as fait du foot, tu connaissais tout sur tout. Puis c'est vrai que t'as dû lui plaire, effectivement.
Et puis il y a quelque chose que je fais quand je fais des films que je ne fais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle. Mais quand je fais un film, je ne parle pas. Je ne parle pas. Je laisse parler les gens, ce que je ne fais pas aujourd'hui.
C'est vrai, je reconnais ça. Tu laisses parler les gens. Tu laisses les gens viennent vers toi et se racontent. Comme nous deux aujourd'hui.
C'est exactement ça.
Et ça, c'était ta force. Écoute, on va écouter une petite musiquette encore avant qui va nous ramener sur autre chose. Tu parlais de Nina Simone, on va écouter un bout de Nina Simone. Ne pleure pas, hein.
Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, but the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down all on that day.
Nina Simone, tu connais, t'as fait un film sur elle.
C'était vraiment formidable parce que j'ai réussi à te retrouver donc à Montreux. On avait fait avec Arte, puisque je travaillais pas mal pour Arte. On avait retrouvé un document qui datait de 77 quand Nina Simone était à Montreux. Et quand j'ai vu ces images, puisqu'il y avait des roches, j'ai failli pleurer tellement c'était beau.
Ouais.
Et j'ai réussi à faire un film d'1h30, donc 1h40 avec et ce film, il a été vu beaucoup, énormément vu. d'ailleurs aux États-Unis, partout dans les festivals, parce que je n'avais pas les droits pour l'exploiter, mais j'avais les droits pour le faire voir dans les festivals.
Je voulais juste te raconter une anecdote, parce qu'un jour, je me suis baladé à Ostende, bord de mer, et sur cette grande allée, là, il y a une allée, c'est une sorte de patio, il y a plein d'étoiles comme à Hollywood. Et je marche, je regarde Brad Pitt, je vois René Lezgus. J'ai mis le pied sur ta tête, sur l'étoile, et je t'ai envoyé la photo.
Oui, mais je l'ai soigné.
Tu te rends compte, il est même là-bas au stand, où il y a un festival de cinéma, en fait.
Oui, oui, exactement. Ouais.
C'est génial, c'est extraordinaire.
Ils m'ont réveillé le matin, à 7h, ils m'ont réveillé, ils m'ont emmené là-bas, et il y avait le bourgmestre, puisque là-bas, c'est des bourgmestres, il y a une petite musique, trois musiciens, il y avait un seau avec du béton, on a enterré.
Oui, je me souviens de cette étoile.
C'était marrant.
Et alors, je sais aussi que tu es toujours propriétaire du Vox, tu as d'autres cinémas à Strasbourg, il y en a un qui est en travaux en ce moment.
C'est le Star, oui.
C'est le Star que tu transformes.
On n'est plus que actionnaire.
Actionnaire, tu es actionnaire.
Ouais.
Et alors, quelle est un peu ton actualité pour finir? Tu es en train de faire la promo d'un film en ce moment?
Oui, alors donc, le dernier film que j'ai fait, c'est sur l'histoire d'un chanteur, chanteur lyrique aussi, que j'ai rencontré pendant
un bariton. Et comment tu l'as rencontré, cet homme?
Ben, je l'ai rencontré parce qu'il y avait un petit extrait qui passait sur l'écran du cinéma Le Trèfle, La Traviata, et quelqu'un est sorti de la salle, m'a vu, et m'a dit, mais tu sais que celui qui chante, là, dans La Traviata, il habite peut-être à 500 mètres du cinéma.
Ouais, c'est génial.
Ça, c'est incroyable. Il était incognito là. Et puis, je l'ai rencontré. On a parlé.
Il s'appelle comment, Ludovic, je crois ?
Ludovic Thésier.
Thésier.
Et sa femme, Cassandre Bertrand. Donc, ils vivent ensemble. Et donc, je les ai suivis un petit peu. On est devenus très amis. On se fréquentait. Lui, il venait au cinéma. Moi, j'allais un petit peu à ses concerts.
Et un jour, il a fait où ? Dans les églises ? Il chante dans les églises ?
Non, pas du tout. Là, actuellement, il chante quelque chose qui est d'actualité. Il chante Nabucco, le film de Verdi. Il chante ça, inspiré de ça, pas du film, de la musique de Verdi. Et il chante ça à Naples, donc pendant tout le mois encore. Et Nabucco, c'est donc une histoire qui touche surtout donc les gens qui sont, par exemple, qui écoutent Radio Judaïka. Enfin, ils connaissent l'histoire, je ne vais pas la rappeler. Et donc, c'est cette personne-là qui chante dans le monde entier. Il chante à New York, il chante à l'autre bout du monde.
Et ce film, il sort quand?
Il s'appelle Ludovic. Ce film, donc, j'ai mis quelques années à le faire. C'était très, très, très compliqué à le faire. Il y a eu le Covid et tout ça. Et ce film va sortir le 21, la semaine prochaine, dans le cinéma. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu plus d'une centaine de villes qui vont sortir ce film, à la même heure.
Et à Strasbourg, il sera sur quel écran?
Il sera au Vox, à Strasbourg.
Au Vox.
Donc, il y aura d'ailleurs une avant-première où je vais être pour...
Tu m'inviteras?
Oui, je t'inviterai parce qu'il y aura un débat après le film,
oui.
Donc chacun pourra s'exprimer.
Je viendrai avec mes micros pour Radio Judaïka.
On a surtout envie, avec Ludovic, on avait surtout envie de faire connaître l'opéra à des gens qui ne savent pas forcément ce que c'est que l'opéra. C'est-à-dire, à la sortie du film, que les gens, ils auront envie de dire, tiens, je savais pas que c'était ça l'opéra, donc j'ai envie d'aller le voir. Et Ludovic m'a envoyé un petit mot pour me dire, tu as fait quelque chose que je ne pensais pas qu'on pouvait faire, c'est donner l'envie à des gens qui n'ont jamais été à l'opéra d'aller à l'opéra.
C'est génial.
Et c'est un peu ça notre métier, d'ailleurs.
T'es un vrai transmetteur. C'est extraordinaire.
C'est surtout Ludovic qui est un type formidable.
Ah bah tu me le présenteras.
Avec une humanité formidable et qui est quelqu'un qui est adorable.
Je suis convaincu, tu en parles tellement bien, je trouve. René, merci d'être venu jusqu'à chez nous. J'espère qu'un jour, tu auras ta chronique ici à Radio Judaïka sur le cinéma.
Tu m'as tendu la perche et je vais peut-être la saisir.
Ok, bah tu as bien raison, tu devrais le faire. Merci, je te souhaite une bonne année et merci pour ton amitié.
Merci à Radio Judaïka de m'avoir reçu. Et merci au technicien qui a été très patient.
Il
a dû en permanence corriger les niveaux parce qu'une fois je parle fort, une fois je parle
non,
pas.
Non, mais c'est quelqu'un, c'est un ange ici.
Alors remercions Thomas.
Merci Thomas.
Salut Thomas.
Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huile.